enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Merci à tous les enfants, merci aux parents qui sont là depuis tôt ce matin pour les deux réunions. Merci à ces beaux enfants, à toute l'équipe qui dirige ces chorales. Merci à tous nos bénévoles qui les aident. Nous allons regarder ensemble dans la parole de Dieu ce matin. Regardez avec moi l'évangile de Luc. Chapitre 12, nous allons continuer avec notre série de messages intitulée « N'aie pas peur, comment vaincre les craintes, angoisses et phobies modernes ». Et alors que ces enfants viennent de chanter, c'est magnifique lorsqu'on a une chorale comme ça, de voir, ils ont tous l'air des petits anges qui sont là à l'avant, ils ont l'air angéliques. Et alors qu'il y a toutes sortes d'inquiétudes qui peuvent assaillir une maman, quelles que soient les inquiétudes, il y a toujours, nos enfants sont toujours capables de dire quelques paroles, juste une parole qui nous fait sourire. Il y a un concours qui a été fait sur Internet où on a demandé aux parents d'envoyer des citations, des phrases comiques que des enfants, des garçons et filles ont dites. Et nous avons tous comme parents des phrases incroyables que nos enfants ont pu dire. Je vais vous en lire quelques-unes ce matin, mais celles que je vous lis, ce sont les cute, acceptables, présentables devant le monde. Est-ce que vous me suivez? Et tout le monde ici, on a des histoires moins cute de nos enfants qui ont dit quelque chose de complètement fou devant la visite et qui nous ont totalement... Et je me souviens, moi, une année, je pense, c'était la fête des mères, même, on avait toute notre famille qui était là, la famille de mon épouse, la mienne, tout le monde était là, et puis on essaie d'être notre meilleur comportement, on essaie de... et Pasteur Claude et sa famille, on essaie d'avoir un bon témoignage dans notre famille. Et mon fils avait 5 ans, j'avais 4-5 ans, et puis il avait vu sa mère mettre de la bière dans le jambon, et puis il était resté fixé là-dessus, la bière, et puis ma femme ne buvait jamais de bière, et d'un coup, devant toute la visite, il arrive et dit, ah, 4-5 ans, super fort, on parlait d'autres choses, mais quelqu'un qui a juste mentionné la bière, et il dit, hey, y a-tu de la bière dans le jambon? Il a entendu bière, ça s'est mis à se faire dans son cerveau, et il a dit super fort, hey, moi, ma mère, elle aime ça une bonne bière. La famille a arrêté de parler jusqu'à quoi? Et après sa cure de désintox, ma femme était mieux et tout a été bien. Un autre membre du staff, et je ne vais pas le nommer, je ne sais pas si je devrais le nommer ou non, mais c'est hallucinant, il avait 4 ans, il était en garderie, et c'est un fils d'un membre du staff que je ne nommerai pas, mais dont la maman est en charge du ministère des Dames, vous me suivez? Alors, et... il avait été mis en punition à la garderie, puis il trouvait ça totalement injuste. C'est une injustice internationale qui venait d'y arriver. Et il a été mis dans le bureau du directeur. Et il attendait dans le bureau du directeur. Puis le directeur est arrivé, puis lui, il était contre ce qu'on lui avait fait. Il était totalement contre ce que cette garderie-là avait fait. Puis lorsqu'il s'est assis dans le bureau du directeur, avant que le directeur puisse dire quoi que ce soit, le téléphone a sonné. Puis le petit gars, devant le directeur de la garderie, 4 ans, il a pris le téléphone, puis il a dit « Allô, garderie des cinglés? » C'était une réplique de film qu'il avait vu, mais au bon moment, au bon endroit, et puis... Combien d'entre vous, là, je ne demanderai pas le témoignage public, mais combien d'entre vous, vous avez une phrase de votre enfant qui vous a fait pâlir? Levez votre main, vous avez quelque chose à confesser. Je vais vous en lire quelques-unes ce matin. Elles sont cute, elles sont inoffensives. Quelques messages et paroles d'enfants, souvent, c'est des mots. Les enfants pensent comprendre un mot, mais ne comprennent pas. Et c'est des enfants, garçons et filles qui parlent à leur maman. La première qui dit, « Maman, papa s'est endormi au soleil. Il a perdu la lotion du temps. » Maman, quand tu étais petite et que papa était petit, c'était qui mes parents? Maman, à l'auditorium, d'un côté, il y a les chiffres pères et de l'autre côté, il y a les chiffres mères. Maman, mon amie Kim, elle habite dans le pâté chinois à Montréal. Il y a aussi les défis. C'est la maman qui fait tous les premiers apprentissages, toutes les choses si difficiles. Qui apprend tellement de choses, d'attacher les souliers, les lacets et tout ça. Alors, maman, je ne peux pas lire l'heure. Les chiffres changent toujours. Et ça, c'est une très bonne déclaration ici. Maman, je ne retournerai pas à l'école parce qu'à l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas. C'est vrai que c'est plate, l'école, pour ça. Et là, la grande question que les enfants se posent, quand maman est fatiguée, pourquoi c'est moi qui dois aller se coucher? Parce que ça repose tout le monde quand tu dors. J'en ai une qui est savoureuse, qui est arrivée ici, à notre église. Vous savez, les dimanches, les enfants apprennent des versets bibliques. Et parfois, ils apprennent, mais c'est le clash entre les pensées bibliques et les expressions bibliques et le monde moderne, qu'ils connaissent bien, très bien, et parfois trop bien. Et le verset, c'était « Quand j'appelle l'Éternel, il me répond. » Et le petit garçon est arrivé à la maison et a dit « Maman, écoute, j'ai bien... » Ça arrive il y a quelques semaines, et maman nous l'a envoyé. « Maman, écoute, j'ai bien appris mon verset. Quand j'appelle l'Internet, il me répond. » Alors, nous voulons dire aux mamans ce matin, l'Internet peut briser, peut crasher, peut bugger, peut geler, mais quand tu appelles à l'Éternel, toujours, 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 il va te répondre et l'Éternel est là pour les mamans. Est-ce qu'on peut applaudir l'Éternel, pas l'Internet? S'il y a des paroles d'enfants, des déclarations, des paroles d'enfants ce matin pour les parents, il y a aussi la parole de Dieu. Dieu qui parle aux mamans et pas seulement aux mamans, à chacun d'entre nous, pour nous enseigner comment vaincre les peurs, angoisses et phobies modernes. On va lire dans quelques instants des versets du Sermon sur la montagne qui sont repris dans plusieurs endroits dans les Évangiles. Et nous apprenons semaine après semaine l'enseignement de Dieu pour libérer les cœurs, libérer les vies des peurs, angoisses et phobies modernes. La semaine dernière, nous avons vu comment vaincre les peurs. Il faut rechercher Dieu et répandre nos cœurs devant lui afin de recevoir sa paix. Dans les prochaines semaines, nous allons voir ensemble qu'il faut reconnaître nos peurs. Ça va être des messages très importants. Comment reconnaître nos peurs et refuser de les laisser nous dominer. Et aujourd'hui, comment vaincre les peurs, angoisses et phobies modernes? Il faut renouveler notre révélation de qui Dieu est. Et nous allons lire un texte dans l'Évangile de Luc. C'est le Sermon sur la montagne qui est pris dans Matthieu, repris dans l'Évangile de Luc, chapitre 12. Et nous allons lire quelques versets à partir du verset 22. Je vous invite à regarder dans votre Bible avec moi. Et si vous n'avez pas de Bible, les passages vont apparaître à l'écran. Luc, chapitre 12, verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie est bien plus que la nourriture. » Et le corps, que la nourriture, le corps ou le vêtement. Verset 25. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiéteriez-vous du reste? Verset 28. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs, qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il? Gens de peu de foi. Verset 29. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez. Ne soyez pas inquiets. Et le verset 31. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le verset 32. Ne craignez pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Une étape absolument essentielle pour qu'une personne, un homme, une femme, soit libérée, qu'un chrétien entre dans une dimension où il est libéré de ses peurs, libéré de ses angoisses, libéré des phobies, il faut que nous puissions entrer dans un renouvellement de notre vision, de notre révélation de qui Dieu est. Dans son message contre l'inquiétude, dans le texte qu'on vient de lire, Jésus renouvelle dans une révélation de qui Dieu est. Il dira trois fois, « Ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, que l'inquiétude puisse cesser. » Mais il lie complètement cette dimension de la victoire sur l'inquiétude avec une révélation de qui Dieu est. La personne qui est chrétienne et qui vit dans l'angoisse, dans les inquiétudes, est une personne qui a perdu une révélation de qui Dieu est. Parce que lorsque la parole de Dieu enseigne et donne un commandement, ce n'est jamais, les commandements ne reposent pas sur du vide. Le Seigneur ne dit pas « ne t'inquiète pas ». Il dit « ne t'inquiète pas et voici pourquoi tu ne devrais pas t'inquiéter ». Tu ne devrais pas t'inquiéter pour plusieurs étapes qu'on a vues ensemble, mais tu ne devrais pas t'inquiéter à cause de qui je suis, qui est ton Dieu. La révélation de qui Dieu est une clé. C'est pourquoi il dit « ne vous inquiétez pas ». Il décrit Dieu comme étant le Père qui nous aime tant. « Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. » Et il dit, c'est une question de foi. C'est une question de croire. C'est une question à chaque jour de renouveler notre foi. Et par l'Esprit de Dieu, d'avoir cette confiance à chaque jour. La personne qui, à chaque jour, vient devant Dieu et par l'Esprit de Dieu est renouvelée dans sa foi, sa confiance. À chaque jour, j'ai une confiance de qui Dieu est pour moi, va voir ses peurs disparaître. Et lorsque le texte qu'on vient de lire nous dit que le Père, c'est son plaisir de vous faire découvrir le royaume, tout l'héritage de paix qu'il a pour vous, lorsque Jésus, dans le Sermon sur la montagne, enseigne sur le royaume, il le décrit comme comme étant accessible, mais que, aussi que nous devons nous en emparer une journée à la fois. C'est un principe extrêmement important. Il va y avoir toutes nos vies des combats avec différentes saisons et situations et événements provoquant diverses possibilités d'inquiétude, d'angoisse, de peur. Mais il y a dans la pensée de Dieu ce portrait tout simple, mais tellement profond, de chrétiens qui viennent à chaque jour. Et demain, tu ne peux pas ajouter à demain, tu ne peux pas changer demain, tu ne peux pas changer hier, mais aujourd'hui, tu peux venir à chaque jour et recevoir une révélation de qui Dieu est, qui va apaiser tes peurs pour cette journée et te faire marcher dans la confiance. Et dans le texte qu'on vient de lire, dans son message contre l'inquiétude, Jésus nous renouvelle dans la révélation de plusieurs choses. Il nous renouvelle dans la révélation de la priorité divine. Il fait référence à tout l'ordre de la nature, l'ordre de l'univers. Il parle de tout ce qui prend place dans la nature. Il parle d'un exemple de l'herbe des champs, mais il dit, ne valez-vous pas bien plus que, et Dieu dit, oui, je tiens l'univers dans mes mains. Il y a un ordre à cet univers que j'ai tenu dans mes mains. Mais ce qui a le plus de valeur sur cette terre, c'est toi. C'est vous. Et j'aimerais dire aux mamans dans ce lieu ici ce matin, en ce dimanche de la fête des mères, que nous avons besoin à chaque jour, alors que vous êtes dans cette tâche extraordinaire d'être une mère, qui est parfois extrêmement valorisante, mais qui est aussi parfois extrêmement demandante et inquiétante. Et les mamans monoparentales qui sont ici, et les mamans d'adolescents, et les mamans qui ont des inquiétudes financières, des inquiétudes maintenant pour la santé de leurs enfants, des inquiétudes pour leur avenir, des inquiétudes pour leur présent, que Dieu dit, je veux te rappeler que tu es ma priorité, et ce que tu fais est prioritaire et éternel, et vous êtes ce qui est de plus précieux pour moi. Je veux vous rappeler ma divine priorité. Vous êtes ma priorité. Je veux dire à chaque maman ici, que lorsque tu te lèves le matin, que tu as toutes tes tâches de maman à faire, tu as toutes les ressources du ciel. Et Dieu dit, tu ne le sais pas toujours, mais ce que tu fais est éternel et je suis avec toi car tu es ma priorité. Quelqu'un devrait dire oui. Nous rappeler dans la révélation de la priorité de Dieu et aussi dans la perspective de Dieu. Il dit littéralement, pourquoi t'inquiéterais-tu pour tout ce que tu ne peux pas changer? Il donne un exemple très, très terre à terre. Il dit, est-ce que tu peux, en t'inquiétant, augmenter est-ce que quelqu'un peut augmenter sa grandeur d'une coudée? La coudée, c'est une mesure. Ça signifie à peu près un mètre de la main au coude. Et il dit, est-ce que tu peux, en t'inquiétant, est-ce que tu peux faire grandir quelque chose? En t'inquiétant, est-ce que tu peux changer ce qui n'est pas changeable? Et il y a une perspective dans laquelle on a besoin d'être renouvelé à chaque jour. Qu'à chaque jour, j'ai des choses que moi, je peux faire, que la Bible nous enseigne. Moi, je peux faire, moi, je peux changer, moi, je peux intervenir, moi, je peux prendre mes responsabilités. Mais combien savez qu'il y a tellement de choses qui nous glissent entre les mains, des choses que l'inquiétude ne peut rien y ajouter. L'inquiétude ne change rien, l'inquiétude n'améliore rien, l'inquiétude ne résolue rien, l'inquiétude nous mine, nous vole notre aujourd'hui, nous assombrit notre hier, nous vole notre aujourd'hui, l'inquiétude souvent nous dérobe notre demain, et la révélation, la paix vient lorsqu'à chaque jour tu es rappelé de la perspective de Dieu qui dit, toi tu fais ce que tu peux, mais souviens-toi toujours qu'il y a des choses que tu ne peux pas changer, et ta vie ultimement n'est pas en tes propres mains, ta vie est dans mes mains. Tu ne peux rien changer. Remets entre mes mains ce que moi je dois porter. Dieu dit, tu as besoin, si tu veux vaincre l'inquiétude, d'être renouvelé dans un renouvellement de toute cette dimension de la divine priorité de Dieu, la divine perspective de Dieu et un renouvellement d'une révélation de la promesse, de la passion et même de la paternité divine de Dieu. Dans la première partie du texte, Le Seigneur de l'univers, Yahweh, on l'adresse comme Dieu. C'est Dieu qui te dit, tu as tellement plus de valeur pour moi que tout ce qui prend place, c'est ma priorité, voici ma perspective. Mais dans la deuxième partie, il leur dit littéralement, ce Dieu n'est pas seulement un Dieu, il est votre Père. Votre Père sait de quoi tu as besoin. Ne t'inquiète pas, arrête d'avoir peur, ton Dieu n'est pas seulement un Dieu, il est ton Père. Et ton Père sait de quoi tu as besoin. Et ton Père, c'est son plaisir de te donner le royaume. Et pour nous qui pouvons avoir une certaine compréhension un peu plus grande du concept de Dieu comme Père, nous avons besoin de nous projeter, de retourner dans le temps, dans le contexte du Nouveau Testament, depuis des millénaires. Ils avaient été enseignés sur Dieu de l'univers, le Dieu créateur, le Dieu qui était aussi à craindre, le Dieu qui appelle à une révérence, le Dieu tout-puissant. Mais le concept de Dieu comme Père leur était totalement inconnu. Et vous ne pouvez pas le lire mais entre les lignes de Jésus qui est arrivé en parlant de Dieu comme de Père aux épîtres du Nouveau Testament, à chaque fois qu'ils recevaient ce concept de Dieu comme Père, il y avait un cœur qui s'arrêtait, ils étaient interloqués parce que ils avaient un concept comme beaucoup de Québécois. Il y a des millions de Québécois, la grande majorité des Québécois, à chaque sondage, c'est plus de 80, parfois jusqu'à près de 90% des Québécois qui disent croire en Dieu. Ils ont un concept d'un Dieu tel qu'ils le conçoivent. Mais très bien peu de Québécois ont cette profonde révélation qu'il n'est pas seulement un Dieu. Parce que tu peux croire qu'il y a un Dieu et continuer à t'inquiéter. Il y a un Dieu, mais si tu le vois comme une force générale, le créateur, l'être suprême, le Dieu à craindre, le Dieu de la religion, ça ne change rien à tes inquiétudes. Mais c'est lorsque tu comprends qu'il n'est pas seulement un Dieu, mais il est mon Père. Et il est mon Père qui connaît mes besoins et son plaisir, c'est de me donner le royaume. C'est ça sa passion. J'ai un ami, Philippe, qui est pasteur en Europe, pasteur en France, dans le sud de la France, qui a plusieurs années à adopter un petit garçon aux Indes. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, un esprit d'angoisse, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous apprenons à dire « Papa, Abba, Père ». Et c'est ça qui fait fuir les craintes. C'est ça qui bannit. C'est la révélation à chaque jour que tu viens devant Dieu et que par le Saint-Esprit, tu en viens à une conviction. Tu en viens à une foi. Tu en viens à une conviction qui est basée sur les Écritures, que Dieu est mon Père et que j'ai été adopté. Et Philippe m'a souvent raconté, c'est un témoignage qui est bouleversant, comment lui et son épouse, Marilyn, avait adopté un petit garçon, avait eu à cœur d'aller adopter un petit garçon aux Indes. Et puis Samuel, et puis il y a une photo qui va apparaître à l'écran. La première fois qu'ils l'ont vu, aujourd'hui c'est un adulte, mais un beau petit garçon dans un orphelinat aux Indes. Et à cause des limites financières et tout ça, ça coûte extrêmement cher les billets d'avion. Philippe est allé seul. Il est allé là-bas et c'était un voyage, une épopée du sud de la France jusqu'aux Indes. Puis après ça, il y avait 12 heures de train à faire. Puis lorsqu'il est arrivé à l'orphelinat, il a rencontré Samuel et puis une journée, je pense, ou deux. Puis par la suite, il revenait avec lui, seul avec lui, mais le garçon ne parlait pas un mot de français. Ils ne sont pas capables de se parler, il n'y a aucune communication possible. Et le garçon n'avait jamais sorti de l'orphelinat une fois. Il n'avait jamais sorti. Et son univers, c'était sa chambre, c'était la cour de l'orphelinat. Et là, il sortait, et la foule, et le train. Et Philippe nous a dit, imagine-toi tout seul avec lui dans le train. Il ne savait pas où aller, le bruit et tout qui bouge, et les lumières, et dormir dans le train. Il avait peur. Et Philippe essayait de lui parler. Comprenez-vous, le garçon avait été adopté, mais il ne comprenait pas le langage du père. Il n'était pas capable de comprendre ce que le père lui disait. Il n'avait aucune idée de ce qu'il y avait dans le cœur du Père. Il ne comprenait pas le cœur du Père. Et lorsqu'il est arrivé, après, imaginez-vous, 12 heures de train, après ça, il va dans l'avion. Et lorsqu'il est arrivé, il n'avait jamais été dans un avion de sa vie, jamais été dans un train, il était complètement paniqué. Et lorsqu'ils sont arrivés à la maison, c'est extrêmement émouvant, parce que Philippe me dit, et son épouse à l'époque nous racontait comment même pendant presque 2 ans, l'adaptation la plus difficile a été pour le garçon, premièrement, apprendre à parler, puis il a commencé à parler, puis un mot, puis un autre, et on lui a appris à parler le français. Il avait 8 ans, 8-9 ans, et finalement, les premiers mots qu'il a commencé, c'était très, très touchant, très émouvant, parce que les premiers mots qu'il a commencé à dire, c'était des mots lorsque finalement, on s'occupait de lui, tout ça, puis à un moment donné, le garçon faisait quelque chose de pas bien, puis là, son père lui disait, écoute, tu peux pas faire ça, Samuel. Et lorsqu'il y avait le semblant de quelque correction que ce soit, les premiers mots, lorsqu'il était capable de parler, au début, il s'écrasait, puis il savait pas ce qu'il pensait, mais lorsqu'il s'est mis à parler, lorsque son père lui parlait ainsi, les premières choses qu'il dit, c'est « Est-ce que tu vas me renvoyer là-bas? » Tu vas me renvoyer, hein? Tu ne me garderas pas. C'est quand que tu vas me renvoyer? C'est quand? Et toutes sortes de petites scènes comme on lui donnait un verre de lait, il en prenait une gorgée puis il le laissait là. Pourquoi? Finalement, pour comprendre que pour lui, à l'orphelinat, ce qui est là, ça ne peut pas être tout pour moi, ça ne peut pas être juste pour moi. Et toutes les choses, il jouait avec des choses dans sa chambre et ça a été immensément long avant qu'il en vienne à comprendre que son papa lui dit « Non, moi je suis ton papa, je t'ai adopté. » Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Je vais m'occuper de toi. Je vais te protéger. Je vais être avec toi. Cette maison-là ici, c'est ta maison maintenant. Et qu'il arrive n'importe quoi, qu'il se passe n'importe quoi dans ta vie, même lorsque papa ne sera pas content à cause de ce que tu as fait, je vais toujours être ton papa. Je vais toujours m'occuper de toi. Et ça a été tellement long. Et ils l'ont pris lorsqu'il avait 8 ans. La prochaine photo qui va apparaître, c'est que samedi dernier, Samuel s'est marié. C'est un grand monsieur maintenant. Et il est marié. Et à travers les années, il y a eu des moments de maladie, moments d'accident, toutes sortes de choses qui sont arrivées. Et papa était là. Et je parlais avec. On s'écrivait, Philippe et moi. Et Philippe m'a écrit cette phrase. Il m'a dit, tu sais, j'ai dit, Philippe, que de chemin parcouru. couru entre le moment où tu t'es adopté pour aujourd'hui, le mariage du beau grand garçon Samuel, dans l'église de papa. Et Philippe lui écrit, il me dit, « Tu sais, être papa, c'est pour la vie. » Et j'aimerais vous dire qu'alors que j'écoutais, alors que j'ai été saisi par ce témoignage, l'esprit d'adoption, que c'est un des apprentissages les plus libérateurs que chacun d'entre nous, nous avons besoin, avec l'aide de Dieu à chaque jour, de réaliser. Et beaucoup d'entre vous, vous avez besoin d'apprendre le langage de Dieu. Vous ne parlez pas le langage du Père. L'image de Père que vous avez connue sur cette terre n'a pas été celle qui est à l'image de Dieu. Elle a tordu votre perception de Dieu. Il y a toujours ce sens de « qu'est-ce qui va m'arriver? » Mais Jésus dit « la raison pour laquelle tu n'as pas à t'inquiéter, tu peux arrêter de t'inquiéter, c'est que ce Dieu, il est ton Père. Il t'a adopté et il te dit « ma maison, mon royaume est pour toi. » Et il te dit « tu peux, tu n'as pas à t'inquiéter. Être ton papa, c'est pour la vie. Je suis engagé envers toi. Et rien ne peut te séparer de mon amour. Et je me lève à chaque matin en sachant que je veux lui plaire et lui être agréable, mais que je fasse une erreur, que je traverse une épreuve, que je souffre ou que je passe une tragédie ou que je fasse des choses qui sont contraires à lui, rien ne peut me séparer de son amour. Il est mon Père, il sera mon Père et il sait ce que j'ai besoin. Il va s'occuper de moi et c'est pour ça que je ne m'inquiète pas. » Quelqu'un va dire oui. À travers toute la parole de Dieu, il y a ces passages bibliques, il y a ces promesses, et j'aimerais vous en donner une, pour jusqu'à, et ça va être la dernière partie du message. J'aimerais vous donner une révélation, une promesse de Dieu que vous pouvez avoir dans votre cœur et dans votre vie pour le reste de l'année, pour chaque jour de l'année. Et elle est trouvée dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 41, elle apparaît à l'écran. Et c'est seulement quelques versets, et je vais dire ceci. J'aimerais vous défier à mémoriser ce passage biblique, à mémoriser des passages bibliques, mais à mémoriser celui-ci. Il y a des gens qui disent, voyons donc, comment c'est apprendre un verset par cœur de la Bible, je ne serais jamais capable de faire ça. Il y a plein d'hommes qui, c'est ça qui leur est venu dans la tête, je ne serais jamais capable d'apprendre un verset biblique, mais ils sont capables de me citer en ce moment le line-up du Canadien au complet. Chaque joueur avec son chandail, son numéro, le nombre de buts, les punitions, qui a été blessé à la laine, etc., etc. Et c'est hallucinant comment ce qui nous intéresse, on est capable de le mémoriser. Capable de se souvenir de toutes sortes de choses. Il y a même des choses qu'on voudrait oublier, qu'on voudrait sortir. Moi, il y a des choses que je voudrais déliter de mon cerveau. Moi, j'ai une mémoire qui me dérange parce que j'ai plein de chansons des années 70 de ma jeunesse que j'ai encore dans la tête. Moi, je peux vous chanter les albums d'harmonium, les deux couverts, les deux bars et certains autres artistes que je n'aimerais pas. Et mes enfants souvent se moquent de moi parce que ça fait des années que je n'ai pas entendu ça. La toune à jouer à radio, je suis capable de la chanter au complet. Je n'ai pas besoin de ça. J'aimerais en libérer mon cerveau. Comment est-ce qu'il y en a qui sont ici, vous avez des affaires dans la tête que vous aimeriez être libérés? Dites-en. Amen. Il y a quelque chose de puissant à mémoriser la parole de Dieu, à l'apprendre, et je vais le rendre très, très pratique pour vous. Jésus a dit, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, va dépendre d'un renouvellement, d'une révélation à chaque jour. Il faut que ça passe d'ici à ton cœur. Il y en a d'entre vous, vous êtes à quelques centimètres de la délivrance, entre l'intellect et une révélation du cœur. C'est de là à là que ça se passe. Une révélation dans votre cœur qu'à chaque jour, tu te lèves à chaque matin, il y a des passages bibliques que tu peux déclarer à Dieu. Voici pourquoi je ne m'inquiéterai pas aujourd'hui. Voici pourquoi je fais confiance à Dieu aujourd'hui. Voici pourquoi je peux remettre tout entre les mains de Dieu. Des passages comme Ésaïe chapitre 41, où nous lisons, « Mais toi, mon serviteur que j'ai choisi, que j'ai aimé, toi que j'ai appris, que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, Dieu qui dit, je sais d'où je t'ai sorti, je sais d'où tu viens. » À qui je t'ai dit, tu es à moi, tu es mon serviteur, je te choisis, chaque personne ici qui a été choisie de Dieu, et je ne te rejette pas, je ne te rejette pas. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il y a dans ce texte deux commandements qui reposent sur cinq piliers de foi. Deux commandements, ne crains rien, et ne promène pas des regards inquiets. Ne crains rien et ne promène pas des regards inquiets. De promener des regards inquiets fait référence à regarder de façon latérale, de façon horizontale, de regarder autour de nous. Ça, c'est la dimension humaine. C'est vous et moi, lorsqu'on se retrouve à chaque jour dans des situations qui viennent mordre à nos cœurs et on se met à regarder à la situation, à la réalité humaine, à la dimension humaine. Je promène des regards et je regarde à mes ressources qui manquent. Je regarde à la situation qui ne change pas. Je regarde ce qui se passe dans la vie de mon fils ou de ma fille ou dans l'économie ou mon emploi ou mon travail ou mon mariage. Et c'est cette dimension où alors que je reste dans le latéral, je reste dans l'horizontal, je promène des regards, il n'y a que de l'angoisse. Je nourris l'angoisse de mon cœur. Et le Seigneur dit, il y a une seule façon, on la paye trop. sauver, c'est qu'alors que tu passes ton temps à promener tes regards de cette façon-ci, de manière horizontale, tu as besoin de lever tes yeux vers moi. Tu as besoin de regarder au-delà de ce qui est humain, aux promesses de qui je suis. Lorsque le Seigneur donne un commandement, ça ne repose pas sur de l'air. Il ne dit pas « ne t'inquiète pas » et c'est tout. Il dit « ne t'inquiète pas et voici pourquoi tu ne devrais pas t'inquiéter. Voici, ça repose sur mon caractère, sur qui je suis, sur ma nature. Si tu me connaissais et tu savais qui je suis, tu ne t'inquiéteras pas. Je te dis « ne t'inquiète pas » parce que je suis, il y a deux commandements, ne crains pas, ne promène pas de regards inquiets. Et voici les cinq piliers de foi sur lesquels ça repose. Je suis avec toi, je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et je veux vous défier à prendre ce verset et je veux vous défier à l'appliquer à votre vie à chaque jour. À chaque jour, à venir devant Dieu, de le personnaliser. Ma révélation de foi par laquelle je peux vaincre la peur, c'est de venir à tous les jours devant Dieu. Ce n'est pas seulement des mots, ça devient la réalité de ma vie. Et je viens devant Dieu et je dis... Dieu a dit, je suis avec toi, je suis ton Dieu, je te fortifierai, je viendrai à ton aide, je te porterai de ma droite triomphante. Et moi, je viens devant lui à tous les matins. Et j'ai dit, Seigneur, je viens à toi et Dieu est avec moi. Je viens et je déclare, Dieu est avec moi. Je le dirais de cette façon, Dieu est avec moi, c'est Dieu qui est au-dessus de moi, qui me protège, qui me garde. C'est Dieu qui me garde. Et je le dis avec le plus grand respect. Je ne le dis pas avec moquerie, je le dis avec le plus grand respect. À chaque funéraille maintenant dans la province de Québec, lorsque quelqu'un décède, il y a toute une famille qui dit « À partir de maintenant, le mort va me garder, le mort va me parler, je vais pouvoir y parler, il va pouvoir me protéger, il va pouvoir m'aider, je le sens qu'il va m'aider, etc., etc. » La Bible n'enseigne pas que les morts peuvent faire quoi que ce soit pour nous après qu'ils ont quitté. Mais la Bible dit que tu n'as pas besoin d'appeler à ton cousin, à ton oncle, à ta tante, pour espérer que le mort qui est mort va avoir quelques effets sur ta vie. Je ne le dis pas avec mépris. La Bible enseigne que tu as Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant et vivant. C'est lui qui garde sur toi, c'est lui qui veille sur toi. Il y a Dieu. Alors, à chaque jour, je viens. Je prends un moment à chaque jour et je viens devant lui. Je dis, Seigneur, c'est ça la réalité. Ça, c'est une réalité aussi vraie que mes comptes, que mes billes, que mes problèmes, que la situation de travail, que mes enfants. Ça, c'est ma réalité encore plus grande, supérieure. Je viens à toi et je dis, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es au-dessus de moi. Non seulement tu es avec moi, tu es au-dessus de moi. Dieu est avec moi, mais Dieu est mon Dieu. Voulez-vous dire avec moi à voix haute, Dieu est mon Dieu. Ce n'est pas seulement Dieu au-dessus de moi, c'est Dieu à mes côtés, avec moi, il est avec moi. Je vais vous inviter, ça coûte quelques dollars, achetez-vous un journal personnel, allez à une papeterie, achetez-vous un journal personnel, plutôt que de juste avoir vos comptes, vos billes, vos difficultés, un journal personnel où vous venez devant Dieu, et vous prenez les situations et vous les mettez, vous faites un journal, moi je fais ça depuis des années. Et c'est hallucinant comment ça fortifie ton cœur. Voici, Seigneur, ce que je t'amène. Voici ce avec quoi j'ai besoin que tu sois là à mes côtés. Il dit, je ne suis pas seulement au-dessus de toi, je suis avec toi. Je suis Dieu avec toi. Je suis ton Dieu, ton Père. Et Dieu sera avec moi, au-dessus de moi. Dieu sera à mes côtés, Dieu mon Dieu. Dieu me fortifiera. Ça, c'est Dieu à l'intérieur de moi. Ça, c'est Dieu qui vient me fortifier, me donner des forces que je n'ai pas, du courage que je n'ai pas, de la paix que je n'ai pas. Car le fruit de l'Esprit, le fruit d'une relation avec l'Esprit de Dieu, une communion avec l'Esprit de Dieu, c'est que tu peux boire à chaque jour goulûment à une eau spirituelle qui est réelle, et le fruit de l'Esprit sera de la paix, sera de la joie, sera de la patience. Le fruit de l'Esprit sera de la foi. Le fruit de l'Esprit, c'est Dieu, non, c'est la promesse de Dieu, c'est Dieu dit, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, mais il t'a dit pourquoi. T'inquiète-toi pas, n'aie pas peur, parce que je suis au-dessus de toi, Dieu avec moi. Je suis ton Dieu, Dieu à mes côtés. Je suis Dieu qui me fortifiera, Dieu à l'intérieur de moi. Je suis Dieu qui interviendra, ou Dieu qui viendra à ton aide. C'est Dieu qui est partout autour de moi, quelles que soient les attaques, quel que soit ce qui vient contre moi, comme un père aimant. Dieu dit, quel que soit ce qui vient contre toi, ton ennemi est mon ennemi, ta cause est ma cause, je vais me battre pour toi et je vais te défendre parce que tu es mon enfant. C'est Dieu au-dessus de moi, c'est Dieu à côté de moi, c'est Dieu à l'intérieur de moi. C'est Dieu qui vient à mon aide autour de moi. Et c'est Dieu même qui dit, ma main droite te soutiendra. C'est Dieu littéralement, je dirais, en dessous de moi. C'est Dieu qui nous porte littéralement. Je vais mentionner un mot sur mon arrière-plan familial. Pour moi, j'ai grandi dans une maison chez nous, il y a beaucoup d'hommes qui sont ainsi, mais jamais on parlait de nos émotions, jamais on parlait de ce qu'on vivait. C'était une question de survie. Souvent, c'était tellement l'horreur ce qu'on vivait qu'on n'en parlait juste pas. Il n'y a aucune capacité de parler de quoi que ce soit qu'on vivait. Tu toffais la run, tu t'endurcissais, puis tu marchais, puis tu passais, puis la carapace, ça devenait juste plus épaisse. Je vais être très honnête avec vous et vous dire que lorsque je suis devenu chrétien, dans certains cercles à l'époque, j'ai découvert presque une version chrétienne de la même mentalité. Il y avait une église, il y avait une pensée chrétienne qui t'avait, tu ne pouvais pas être faible, tu ne pouvais pas avoir des problèmes, tu ne pouvais pas avoir... Puis c'était, on avait juste habillé ça avec des versets bibliques. Souvent, c'était, on avait, lève la tête, regarde en l'air, lève la tête, gloire à Dieu, la joie du Seigneur est ma force, je ne sais plus tout pour ça, je me fortifie. Et tu marchais, marche là-dedans, allô, hop, hop, hop. Et il y avait beaucoup de gens dans la salle qui, eux, vivaient, vous et moi, puis il y a une portion de vrai dans tout ça, tu te lèves la tête, tu marches dans les promesses de Dieu, mais il y a une réalité aussi. Il y a une réalité que bien souvent, on est capable de lever la tête et de marcher haut, mais il y a d'autres moments où tu penches la tête, où tu regardes au sol, où tu as de la misère à marcher, mettre un pied devant l'autre, tu as peur de ce qui est devant toi. Daniel, dans l'Ancien Testament, a dit littéralement, il est arrivé devant Dieu, puis la Bible nous dit, il avait Daniel chapitre 10, la Bible, 11 et 12, la Bible nous dit qu'il regardait, il dit, j'ai regardé par terre et j'ai dit au Seigneur, je suis sans force, le souffle me manque. Et le texte nous dit ceci, le Seigneur dit, moi je te dis, n'aie pas peur, inquiète-toi pas, promène pas des regards inquiets, parce que je suis au-dessus de toi, je suis ton Dieu. Je vais être autour de toi, je vais t'aider. Dieu avec moi, Dieu mon aide, Dieu mon Dieu. Je vais être à l'intérieur de toi, Dieu ma force. Mais parfois, dans des moments de ta vie, tu n'es plus capable de regarder la tête haute, tout va bien. C'est que tu penches la tête d'une manière humaine. Tu penches la tête et que tu regardes en bas. Lorsque tu regardes en bas, tu vas trouver mes bras. Il y a un verset qui dit, « Voici l'Éternel, il court les cieux pour venir à la rescousse de ses enfants. Le Dieu de l'univers, le Saint d'Israël. But underneath are the everlasting arms. » Mais en dessous de toi sont ses bras éternels. Dieu dit, il y aura des moments où tu n'es même pas capable de marcher toi-même. Mais n'aie pas peur, je vais te porter s'il le faut. Je vais être au-dessus de toi, à côté de toi, en toi, autour de toi et en dessous de toi. Ne crains pas, je suis ton Dieu. Quelqu'un devrait dire oui. Ce diamant extraordinaire de la révélation, n'aie pas peur, Dieu est avec toi, n'aie pas peur, Dieu est là. Ce diamant-là dans Ésaïe 41, vous lirez à la maison, ça prend quelques minutes de lire le chapitre. Le Seigneur donne la révélation, je vais te dire maintenant pourquoi tu ne devrais pas t'inquiéter. La révélation de ce que je suis pour toi, et ce diamant-là qui est magnifique et qui brille, il fait briller quelques lumières dessus qui le font briller encore plus magnifiquement. Quatre lumières qui font briller en terminant le message. Les diamants de cette révélation, ils sont trouvés dans Ésaïe 41. Il dit, voici pourquoi tu ne devrais pas avoir peur. Parce que je suis avec toi, je suis ton Dieu, je te soutiens au-dessus de toi, autour de toi, à l'intérieur de toi, sous toi. Mais voici pourquoi tu ne devrais pas avoir peur. Parce que ce Dieu-là qui te dit n'aie pas peur, il est le juge de toute la terre. Verset 1. Que les îles de la terre, la diapo 11, que les îles de la terre fassent silence pour m'écouter, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons-nous et plaidons ensemble devant le Dieu de la terre. Une des causes d'angoisse, une des causes de peine, une des causes de tourment de beaucoup de personnes, c'est le fait qu'ils ont été jugés, qu'ils se sentent jugés. On me juge. Le monde m'a jugé, mes parents m'ont jugé, les gens autour de moi m'ont jugé. Les mamans qui sont ici, qui se sentent jugées. Je ne suis pas assez une bonne mère, je ne performe pas assez comme mère. J'ai été jugé, c'est un poids, c'est un jugé par les gens autour de moi, jugé par la société, jugé par mes confrères, jugé par les situations de la vie. Je dirais même ceci, c'est complètement contraire au plan de Dieu. Mais des chrétiens qui sont ici, qui ont vécu, qu'alors que vous marchez dans l'Église, vous marchez dans le Seigneur, vous avez vécu une tragédie dans votre vie, il est arrivé quelque chose à vos enfants ou à vous-même, vous avez vécu un déchirement, vous avez vécu quelque chose qui est terrible et que vous aviez tellement un sentiment de douleur et de peine, en plus a été ajouté à cette peine le jugement des chrétiens. Aïe, aïe, ça ne devrait pas arriver à un chrétien d'en faire comme ça. Comment ça se fait? Ah, je pensais pas que c'était comme ça. Je pensais que c'était plus spirituel que ça. Le jugement. Il y a des gens dont le cœur est rongé d'une inquiétude à cause du jugement. Ésaïe dit, écoute la voix de Dieu. Dieu te dit ceci. Lève la tête. Écoute-moi. N'aie pas peur. Ne pose pas des regards troublés parce que je suis avec toi, au-dessus de toi, je suis à côté de toi, je suis en toi, je suis en dessous de toi et c'est moi qui est ton juge. Sois libéré. Tu n'as pas à vivre ta vie jugée par les hommes. Tu vis ta vie devant moi et moi, je suis le juge qui est ton père et qui t'aime et qui pardonne et qui te relève et qui peut toujours te reprendre. Sois libéré du jugement, maman, ce matin. Dieu est avec toi. N'aie pas peur. Le Dieu qui te dit « N'aie pas peur, il est le juge sur toute la terre. » Quatre lumières qui font briller les diamants de cette révélation. Le Dieu qui te dit « N'aie pas peur, il est celui, dans Ésaïe 41 toujours, il est celui qui règne au-dessus de tout et de tous. Et il est l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. » Versets 2, 3 et 4. « Qui est maître au-dessus de toutes les nations et autorités, suprême au-dessus de tous les rois? Qui est comme celui qui a réduit à la poussière l'arme des plus grands? » Qui a fait la diapo 13 et exécuté toutes ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. C'est moi, l'Éternel, le premier. celui qui est plus grand que tous les rois de la terre. Ne manquez pas ceci. Dieu dit, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, mets pas tes yeux sur les hommes, car moi qui suis avec toi, je suis plus grand que tous les rois de la terre. Nous vivons dans une société qui essaie de limiter Dieu, d'humaniser Dieu. Vous entendez les gens parler, ah, le bonhomme en haut, mon chum en haut, etc. Essayez de réduire Dieu à un pote, à un copain, à essayer d'humaniser Dieu, mais une société qui humanise Dieu et qui essaye de diviniser et d'élever les hommes. Nous sommes dans une société d'idolâtrie. Ce n'est pas juste les gens qui ont une statue dans leur salon qui sont des idolâtres. L'idolâtrie, c'est aussi de regarder des êtres humains, de les élever à un rang, que ce soit des vedettes sportives, à toutes sortes de gens. Il y a toute une société qui... Puis il y a beaucoup d'entre nous, humainement, qui avons cette pensée que je pouvais avoir... Si cette personne-là pouvait m'appuyer, là, il me semble que je m'inquiéterais plus. Est-ce que vous me suivez? Si ce grand-là m'aiderait. Là. Récemment, le pasteur Mark était en Haïti, et puis il est arrivé face à face avec le président Clinton dans un... Il était avec une délégation qui était là, puis dans un hôtel à Haïti, puis il était venu faire une présentation. Puis le président Bill Clinton était là, puis ils ont parlé quelques minutes ensemble, et je dis ça avec le plus grand respect pour tous ses accomplissements. C'est un homme extrêmement brillant et qui a fait de grandes choses, mais il y a plusieurs années, au moment où il était au fait de sa présidence, surtout là, son premier mandat, il était peut-être l'homme le plus populaire et le plus influent sur la planète. Et n'importe qui aurait regardé à lui et disait, ça, c'est si lui m'aiderait, là, si lui serait de mon bord, si lui me disait « n'aie pas peur », il me semble que... Ouf. Mais ce que le Seigneur enseigne dans ce texte lorsqu'il dit « c'est moi l'Éternel, je suis plus grand que tous les rois de la terre », c'est que les plus grands rois de cette terre ont des pieds d'argile. Ce sont des êtres humains avec d'infinies et grandes limitations. Les hommes te décevront, il n'y a que Dieu qui ne te décevra jamais. Et Bill Clinton, avec tout le génie, avec toute la connaissance, le génie, l'influence, la passion qu'il avait, c'est un homme très rare, unique dans ses capacités qu'il avait, s'est retrouvé dans un moment où il ne pouvait pas contrôler ses impulsions les plus primaires. Dans sa propre Maison Blanche, il est arrivé à un moment où il a amené une honte sur lui-même, une honte sur sa famille, brisé le cœur de sa femme, de ses enfants, de sa fille, et toute son l'histoire complète sera toujours tachée avec ce moment complètement fou. Tu dis, cet homme-là était capable de l'avoir, était tellement brillant, était capable de jongler avec les plus grands problèmes du monde, mais c'était seulement un être humain. C'était seulement quelqu'un avec ses limites humaines tellement grandes. Ce que Dieu dit, c'est que toi, tu penses que si j'avais l'appui de lui, ou j'avais l'appui de lui, ou si je pouvais me confier en lui, ou si j'étais ici ou j'étais là, tu as accès aux plus grands des plus grands. Les êtres humains, tu peux les honorer, les respecter, mais la révérence et la foi, garde-la pour moi, car c'est moi le seul Dieu parfait. Quand ça fait des années que je vais à New York, et s'il y a quelques années, j'aurais été dans un, tout à coup dans un ascenseur, dans un bâtiment, dans un des buildings dans le quartier à Manhattan où je vais prêcher à l'église là-bas, et qu'en entrant, tout à coup, je suis dans l'ascenseur avec un chrétien, puis un homme qui rentre, puis un chrétien qui me dit, tu sais qui lui? C'est Bernard Madoff. Tu sais qui? Parle-lui, puis d'un coup, Bernard Madoff me regarde et dit, Claude, je mets mon bras autour de toi, je vais m'occuper de toi, ne t'inquiète pas. À ce moment-là, j'aurais pu dire, ma vie est réglée. That's it. Le plus grand des plus grands, les millionnaires se bousculaient pour qu'ils investissent leur argent. C'était le gars le plus connu, un milliardaire, etc., etc. Et c'est entre vous qui suivez l'actualité. Il est maintenant en prison pour fraude. Et c'était aussi un homme très, très brillant. Mais des milliers d'investisseurs qui se sont confiés en lui à ce moment-là, qui était le meilleur, le plus grand de tous les personnes dans lesquelles tu pouvais te confier, ont été déchirés et amèrement déçus. Je ne suis pas ici pour abaisser Madoff. Je suis ici pour vous dire, à vous tous qui vous dites, ah, je suis tout seul, j'ai rien dans ma situation, si lui s'occupait de moi, si cette personne-là, si Céline Pironi pouvait prendre mon dossier en main, il me semble que ça m'aiderait. J'aimerais vous dire que ce matin, le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, et celui qui te le dit, et il est ton juge, il est le roi au-dessus de tous les rois, au-dessus de toutes les récessions, au-dessus de tout ce qui est secoué. Quelqu'un devrait dire oui. Alors que les musiciens s'approchent, quatre lumières qui font briller le diamant de cette révélation, celui qui te dit n'aie pas peur, il est le juge de toute la terre. Il est celui qui règne au-dessus de tout et de tous. Il est l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Et je termine avec ceci, toujours d'Ésaïe 41. Il est le Seigneur qui connaît tout de moi, qui m'aime et qui m'appelle à cette foi en lui qui me permet de vaincre mes peurs. Le Seigneur dit en Ésaïe 41, je sais d'où tu viens. Je sais ce qui te fait peur. Et moi, je sais d'où tu viens. Ce qui est extraordinaire de Dieu, c'est qu'il me connaît vraiment et il m'aime pareil. Ce qui est extraordinaire de Dieu, c'est qu'il vous connaît vraiment, mais il vous aime. Et il dit, Moi, je vois au-delà de toutes les masques, au-delà de tout, mais je t'aime, je t'ai choisi. Tu es mon enfant. Et je me suis engagé envers toi, et moi, je ne te rejetterai jamais. Et je suis avec toi, et je te dis, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne crains pas. Arrête de promener des regards inquiets. Et tous les jours, viens devant moi. Et tu peux venir devant Dieu à chaque jour et dire, Seigneur, tu es avec moi, au-dessus de moi. Tu es mon Dieu. Tu es avec moi, autour de moi. Tu es le Seigneur qui va me fortifier à l'intérieur de moi. Tu es le Seigneur qui va me porter même dessous moi. Je ne craindrai pas, je n'aurai pas peur. Et cette œuvre-là, cette conviction-là, Dieu est tellement grand que non seulement il nous déclare qui il est, mais il dit, vous ne serez pas seul. Je vous donne accès à mon Saint-Esprit qui, lui, va venir surnaturellement amener cette conviction à ton cœur. Vous avez tous vécu ici, vous pouvez être à l'église le dimanche et entendre un sermon comme celui-ci, puis il y a quelque chose pendant quelques instants qui fait du bien, puis vous dites, c'est vrai que Dieu est avec moi, puis pourquoi je m'inquiéterais, puis c'est vrai qu'il est là, puis c'est vrai qu'il m'aime, c'est vrai qu'il est mon Dieu, c'est de se retrouver le lundi ou le mardi, puis c'est comme si toute la conviction que j'avais est disparue, et c'est les peurs qui viennent prendre toute la place. Combien d'entre vous comprenez de quoi je parle? Et le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Non seulement j'ai ma promesse, j'ai mon caractère, j'ai qui je suis, mais je vous ai envoyé mon Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit, c'est pas pour des. Il y en a qui ont. C'est pas pour des manifestations bizarres à l'Église. Le Saint-Esprit, c'est pour une capacité de conviction que Dieu donne dans l'Église, mais lorsque tu sors de l'Église. C'est pourquoi dans Romains, l'apôtre Paul donne la clé, le secret. Il dit, voici ce qui peut arriver. C'est le dernier verset de la journée. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit pour être un esclave, servitude. Vous n'avez pas, Romains 8, versets 15 et 16 jusqu'à 25. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour être toujours dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous êtes rendu capable de dire « Abba, Père ». Le Saint-Esprit, qu'à chaque jour tu peux être dans la présence de Dieu, dire « Seigneur, viens me donner ta vérité par ton esprit ». Le Saint-Esprit qui vient et qui te libère à chaque jour de la captivité, qui te rappelle d'une manière qui devient une foi aux gens de peu de foi. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et le Saint-Esprit qui vient te rappeler « Il n'est pas seulement un Dieu, il est mon papa. Le mot grec pour Abba, ce n'est pas seulement un père, c'est un papa. Il est mon père, il est mon papa. Et l'Esprit, à chaque jour, prend témoignage que je n'ai pas à m'inquiéter, car je suis un enfant de Dieu, dit Apocalypse 15. Et voici le résultat, le fruit. Mais nous espérons en ce que nous ne voyons pas, et nous l'attendons avec persévérance, que par le Saint-Esprit, beaucoup d'entre vous l'avez vécu, même lorsque la situation n'a pas encore changé, je ne vois pas encore, il y a une persévérance puis une confiance. Qui Dieu est prend toute la place, et c'est plus grand que l'épreuve dans laquelle je vis actuellement. Mais vous dites, oui, mais moi, je suis tellement faible. Il y en a des forts, peut-être, pour qui ça marche. Moi, je suis tellement faible. Mais l'Esprit lui-même, de même aussi l'Esprit, verset 26 de Romains 8, diapo 16, de même, l'Esprit lui-même nous aide dans notre faiblesse. Car même lorsque nous ne savons pas ce qu'il faut prier, comment prier, l'Esprit lui-même intercède avec des soupirs inexprimables. Et nous savons, voulez-vous dire à voix haute, nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ses desseins. Il dit littéralement, voici ce qui peut arriver à l'être humain, ce qui est arrivé à des millions d'êtres humains à travers l'histoire. Lorsque les peurs bombardent de tous les côtés, tu peux entrer en communion avec Dieu qui va te rappeler qui Dieu est, qui il est. Il y a quelque chose qui monte en toi et par la foi, tu dis, voici ma confession de qui tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es avec moi, tu me soutiendras au-dessus de moi, à l'intérieur de moi, autour de moi, en dessous de moi. Ta droite va me fortifier et l'Esprit de Dieu vient faire une œuvre surnaturelle en toi à chaque jour. Tu viens briller et l'Esprit, dans ta faiblesse, vient te apaiser la peur et te dire, voici l'Esprit qui témoigne à ton esprit, je suis un enfant de Dieu, Dieu s'occupe de moi, c'est pour ça que je n'ai pas peur. Et même si je ne vois pas le changement en ce moment, je l'attends avec persévérance car je sais. J'ai une conviction, je sais autant que je vis puis j'existe, je sais que toutes choses concourent au bien. Puis quel que soit ce que je traverse, je n'ai pas à avoir peur, car le Dieu qui est mon juge, le Dieu qui est le Créateur, le Dieu qui est le Roi des rois, il est avec moi et il m'a dit, ne t'inquiète pas. Et je sais que je peux compter sur Dieu. À tous les mamans, je vais terminer avec ceci. À travers l'histoire, j'aurais pu donner des témoignages de plein de mamans ici dans l'Église. Des mères chrétiennes ont trouvé en Dieu une foi et une confiance qui a calmé leur peur et qui leur a permis de traverser, de bâtir des choses extraordinaires et de traverser toutes les épreuves avec une paix, avec un calme, avec une joie qui est entièrement surnaturelle. Romains 8 devenant réalité dans le cœur d'une maman à la fois par le Saint-Esprit. Et une de celles qui me touche beaucoup, c'est le témoignage de Susanna Wesley. Et c'est la mère de deux hommes qui ont marqué le monde, littéralement, parmi l'histoire de tous les grands hommes de Dieu de l'histoire, Charles et John Wesley. sont deux hommes qui ont fondé des mouvements chrétiens, le mouvement méthodiste qui a touché l'Europe, l'Angleterre, un réveil qui a touché vraiment des millions de personnes, puis par la suite des États-Unis. C'est un mouvement qui a des ramifications encore aujourd'hui partout à travers le monde. Et cette maman-là, et les deux dans leur biographie, attribuent à leur mère leur témoignage chrétien. Et Susanna Wesley était une femme qui a eu 10 enfants. Elle a eu 6 gars et 4 filles. Et l'histoire dit que l'endroit où ils habitaient, c'est inimaginable comment c'était petit, comment c'était fermé, comment qu'il y avait, les enfants étaient enlignés. Et elle a vécu à l'époque, pendant ces années-là, où elle était la maman de ses garçons et de ses filles. Il y a eu une guerre, il y a eu une récession, il y a eu une dépression terrible, la famine, il y a eu toutes sortes de choses. C'était une femme chrétienne et qui avait une méthode. Et leurs fils ont fondé un mouvement chrétien qui s'appelle le mouvement méthodiste, qui avec une main de fer dans un grand velours a communiqué la foi à ses fils et à ses filles. Et deux de ses fils ont touché le monde dans des conditions tellement... J'ai une biographie dans ma bibliothèque avec 600 pages. C'est une histoire de... Il est tout autour d'elle pour la terroriser. Et elle avait quelque chose que les deux fils parlent. Les deux, il y a un chapitre qui s'appelle « La leçon du tablier ». Et lorsque j'ai lu ça, j'ai souri parce que les deux fils racontent comment leur mère, le secret de la paix de leur mère, de la confiance puis de la révélation qu'elle avait de Dieu, qu'elle a par la suite donné à ses enfants qui ont touché le monde, c'est que cette dame-là, Joanna Wesley, avait, comme vous et moi, le tablier représente le travail. Elle passait sa journée, puis elle avait littéralement un vrai tablier. Aujourd'hui, on porte moins ça, mais elle avait un vrai tablier où elle travaillait toute la journée, puis ça représente 10 enfants. Là. Ça représente les couches, le travail tout le matin, les devoirs, l'aménage, la nourriture, etc., etc. Puis elle passait la journée à faire tout ce qu'elle avait à faire sur 7 ans, mais c'était une femme de foi, puis elle enseignait à ses enfants rapidement, et tous les enfants le savaient, puis les deux fils le savaient très bien, qu'il y a un moment dans la journée, au moment, elle enlevait le tablier, et puis elle n'avait aucune place pour aller prier, elle n'avait pas de place tranquille. Mais lorsque tout le monde avait été nourri, tout le monde était correct, même si les choses n'étaient pas toutes faites, même si elle avait encore plein de choses à faire, même si elle aurait pu toujours travailler, elle avait un secret. Et ses fils parlent toutes les deux du tablier, à tous les jours, elle enlevait le tablier, puis elle s'assoyait sur une chaise dans une petite pièce avec des enfants qui étaient autour. Mais les enfants savaient qu'à un moment donné, elle enlevait le tablier, puis elle prenait le tablier, puis elle se le mettait littéralement comme ça sur la tête. Et ça voulait dire « Maman est avec Jésus ». Laisse-moi tranquille. Elle ne pouvait pas aller prier dans sa chambre, elle n'avait pas de chambre. Sa chambre, c'était une chambre pour tous les enfants. Et les garçons, les deux disent, maman était très douce, très pleine d'amour, mais ce moment-là, c'est un moment, tout le monde a compris vite, ça ne dérange pas. Quand maman, elle est avec Jésus, elle est sous le tablier, dérange-la pas. Quand maman est avec Jésus, laisse-la tranquille, parce que c'est toi qui vas se retrouver avec Jésus. Est-ce que vous me suivez? Et elle écrit... Personne ne peut comprendre tout ce qui s'est passé sous le tablier, avec ma parole, avec le Seigneur. Dans ce moment-là, ce qui se passait dans les textes, dans les termes de notre message de ce matin, alors que tout autour d'elle pouvait l'écraser et la terroriser, c'est que l'Esprit de Dieu venait témoigner à son esprit, de la calmer, de lui dire, « Je suis ton Dieu, je suis avec toi, je suis au-dessus de toi, je suis en toi, je suis autour de toi, je vais te porter. » Et alors qu'elle est là et que tout devrait avoir peur autour, l'Esprit de Dieu qui lui rappelait, tu es ma divine priorité. Porte pas ces choses-là dans tes mains. Comment est-ce que tu peux augmenter quoi que ce soit à ta vie? Est-ce que tu vas dire ajouter une coudée à ta vie par tes inquiétudes? Remets ça entre mes mains. Et je ne suis pas seulement ton Dieu, je suis ton Père. Et à chaque jour, elle expérimentait la réalité sous le tablier. Nous ne sommes pas des esclaves de la peur, les esclaves de l'angoisse, mais nous avons reçu un esprit de Dieu par lequel nous pouvons dire « Papa ». Et son esprit me rappelle à chaque jour que je ne suis choisi par lui, je suis un enfant de Dieu, il ne me rejettera pas. Et même dans ma faiblesse, l'esprit intercède. Et lorsque je ne vois rien, j'attends avec persévérance et confiance, car je sais. Maintenant, je sais que je n'ai pas à m'inquiéter, car tout ce qui arrive concourt au bien, et que de l'autre côté de cette tempête, il y a le Dieu de gloire qui m'a dit, ne t'inquiète pas, et je suis avec toi. Je prie et j'appelle chaque maman, chaque papa et chaque chrétien en 2009 à enlever à chaque jour le tablier de l'activité, du travail, du boulot, de l'Internet, de tout le reste, et à chaque jour, enlever le tablier et aller sous le tablier de sa présence, et au rendez-vous, vous trouverez le Dieu de paix qui va vous remplir par son esprit de la révélation que vous êtes adopté par lui, et que tous ses enfants disent un dernier grand Amen et applaudissent le Dieu de paix avec moi. Je veux terminer cette matinée en priant pour les mamans. Je vais inviter tout le monde à se lever avec moi ce matin. Je vais demander une faveur à toutes les mères. Nous voulons prier pour toutes les mamans et prier pour toutes les grands-mamans qui sont ici. Avoir un moment de prière avec vous ce matin. J'aimerais qu'on fasse ceci, un moment solennel. J'aimerais tout de suite inviter toutes les mamans partout dans cette salle, à sortir de l'endroit où vous êtes et à vous approcher ici face à moi à l'avant. Et nous voulons prier pour vous. Et pendant, venez les mamans et les grands-mamans. Et pendant que les mamans s'approchent, j'aimerais que toute l'assemblée, on leur donne pendant tout le temps où elles s'avancent, une ovation debout, que ce soit sous les applaudissements. Pas à moi, pas de cœur. Applaudissez de tout vos cœurs. Plus que pour un artiste, plus que pour un athlète, plus que pour un politicien, plus que pour une vedette. Plus que pour des idoles de ce monde, applaudissez des mamans. Laissez-moi entendre des applaudissements pour des mamans et des grands-mamans. Applaudissez leur courage et applaudissez leur foi et applaudissez leur créativité et leur amour. Et applaudissez leur amour inconditionnel et leur persévérance et leur cœur à l'ouvrage et leur résilience à se relever des épreuves. Applaudissez les enfants de Dieu, les filles de Dieu. Arrêtez pas ce matin, applaudissez. Applaudissez ces femmes qui peuvent changer la vie de garçons et de filles. Les mamans, approchez tout proche, faire de la place à toutes les mamans qui s'en viennent. Allez, messieurs, applaudissez à tous vos... Mesdames et messieurs, applaudissons les mamans ensemble. On va prier avec elles. On va demander à tout le monde qui est dans l'arrière. Voulez-vous étendre vos mains? Tendez vos mains vers le devant. On va prier pour vous. Puis, mesdames, nous allons prier pour vous ce matin. Nous allons prier que Dieu, nous allons prier pour vous-même. Non seulement pour ce matin, mais pendant toute cette prochaine année. Nous allons chanter et prier ensemble et dire au Seigneur ce matin, mon Dieu, toi seul, tu peux fortifier mon cœur. Jésus, je vais aller sous le tablier avec toi. Je vais aller dans ta présence et on va y aller même ce matin. Aller dans la présence de Dieu. Toutes les femmes ferment leurs yeux pendant un moment, toutes les mamans, les grands-mamans. Et apporter tous tes fardeaux au Seigneur. Et le Seigneur te dit, tu es ma fille. Je t'ai choisi. Je ne te rejette pas. Je t'ai choisi. Je suis moi ton juge. Laisse personne te juger. Accepte pas les jugements de personne. Je suis moi ton juge. Je suis ton père. Je suis avec toi. Au-dessus de toi, autour de toi, en toi, en dessous de toi. Lorsque tu viens à moi, à chaque jour, où que tu sois, je vais te rappeler que tu es important. Tu es ma priorité. Je suis avec toi. Je vais te soutenir, je vais t'aimer, je vais t'aider. Tu peux avoir confiance en moi. Ta cause est la mienne. Et ta tâche est éternelle. Il n'y a rien de plus important sur cette terre que ce que tu fais comme mère. Et à chaque fois que tu vas venir à moi, tu vas me dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Mon esprit va être là avec toi. Chantons-le et prions-le ensemble, tout le monde.
Jésus fortifie ton cœur.
De chanter avec toutes les mamans de, la, de foi qui tournent leur cœur vers le Seigneur. Chantez-le, maman.
Oh, Jésus,
écoute leur prière, Seigneur. Viens les fortifier à chaque jour de l'année. Écoute la chorale des femmes qui mettent leur confiance en toi.
Oh,
relevé. Et mon Dieu, donné un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu. Nous apprécions les mamans. Nous les admirons ce matin. Nous les appuyons ce matin. Viens, Esprit de Dieu, les jeunes mamans monoparentales, les mamans dans un couple difficile, les mamans d'ado, les grands-mamans qui s'inquiètent pour leurs garçons et leurs filles. Mon Dieu, viens fortifier nos cœurs. Viens fortifier leurs cœurs, mon Seigneur. Viens bannir les peurs de leurs âmes. Viens leur permettre de ne pas s'inquiéter, car ton esprit témoigne à leur esprit qu'elles sont des enfants de Dieu. Seigneur, nous venons devant toi et nous prions pour toutes les mamans de l'Église. Oh! Guéris-les, mon Dieu. Fortifie-les, environne-les, entoure-les. Tu es au-dessus d'elles, autour d'elles, à l'intérieur d'elles, en dessous d'elles. Et tu es tellement bon, tellement grand. Et aucun autre nom. Les plus grands, non, non, non. Admirons. Nous voulons vous aider. Je ne peux pas aller faire votre ménage, mais nous voulons vous aider. Et nous voulons vous dire que vous êtes belle et que vous êtes précieuse. Nous, aux portes de la ville de l'Église Nouvelle-Vie ce matin, déclarons comment ces mamans sont précieuses une dernière fois. Au nom de Jésus, le Seigneur est avec vous.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.